Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible!
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous!
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour, l'été file doucement, le cinéma s'invite évidemment dans les salles mais aussi en plein air. Et en l'absence de blockbusters en ce mois de juillet, on est bien forcé d'être attentif aux petits films non dénués de qualité, mais on a l'habitude de le faire. Nous vous parlerons d'un long métrage en salle depuis le 8 juillet, Les Parfums avec Emmanuel De Vos, et puis trois films en salle depuis le 14 et 15 juillet, La Voix du Succès, un biopic inspiré de la vie de Grace Davis, et puis tiens, un film avec une chanteuse devenue actrice, c'est Camilla Jordana, dans le polar La Nuit Venue. Le dernier film dont il sera question dans cette émission, c'est le premier long métrage issu de la sélection du Festival de Cannes 2020 qui n'a jamais eu lieu. C'est Été 85 de François Ozon, un teen movie sur l'été en été, ça tombe bien. On en profitera pour écouter un condensé de la bande originale du film de François Ozon, composé de musiques porteuses de nostalgie ensoleillée. Et puis comme nous avions déjà fait un blind test sur la filmographie du réalisateur français, eh bien nous allons la rediffuser, de quoi vous remettre dans l'ambiance de ce cinéaste qui a multiplié les genres.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
C'est parti. Pour un petit voyage dans les archives de l'émission, on remonte 4 ans en arrière. J'espère que vous avez révisé votre François Ozon, car voici 5 titres de ses films à deviner.
This is Cinérama.
Et voilà comme c'est facile, écoutez. Alors voilà, bah c'est facile forcément. Alors quel est le film ?
C'était 8 femmes.
Voilà,
c'était Virginie le doyen.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'était facile. Il y a le deuxième extrait aussi de ce blind test qui, à mon avis, va être facile à trouver.
C'est encore un secret, mais je crois qu'il veut se marier. C'est merveilleux, non ?
Tu parles. Entretenir un nouveau ménage.
Mais ton fils ne demande rien.
Oui, mais ça va venir. Tu sais, s'il se marie, la fille qui lui a mis le grappin dessus, elle sait où elle tombe. Elle sait qu'il y a des parents et une usine derrière. Crois-moi.
Non, je te rassure tout de suite. Sa famille est à l'abri. C'est la fille unique de la pâtissière place de la cathédrale. Floriane Marquiset.
Mon Dieu.
Oh, Robert.
Oh.
Mon Dieu, mais Robert. Oh.
Nom de Dieu, de nom de Dieu.
Oh. Écoute, il paraît qu'elle est très gentille. Elle est charmante, elle étudie le piano.
Elle étudie le piano.
Mais quoi, t'aurais préféré qu'elle joue de la clarinette?
Écoute, il est hors de question que Laurent épouse Floriane Marquiset.
Ah, mais Robert...
La Pujol qui épouse une Marquiset, mais ce serait la déchéance.
Mais tu es vraiment trop snob, écoute. Tu ne la connais même pas, attends moins de l'avoir rencontrée.
Je ne la rencontrerai jamais, tu entends. Et Laurent n'épousera pas la fille Marquiset, un point, c'est tout. Tu as compris?
Écoute, Robert, si tu veux mon avis...
Ton avis? Quel avis? Tu as un avis?
Mais Robert...
Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Alors, sois gentil, contente-toi de tes petits poèmes.
Insupportable Fabrice Lucchini. Robert, dans le film. Marine, tu as trouvé?
Oui, c'était Potiche.
Oui. Voilà, et nous écoutions Catherine Deneuve, qui a joué aussi dans 8 femmes, pour le coup. Troisième extrait.
Franz nous présente Vera, une vieille copine. Je devrais dire un vieux copain. Il s'est fait couper la bite à Casablanca.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Excusez-moi, vous êtes donc la femme qui a tenu le coup 7 ans avec Léopold, c'est ça?
Si ça n'avait tenu qu'un mois, nous serions encore ensemble aujourd'hui.
Faut dire que Vera adore être attachée. De préférence, les pieds et les mains. Prête jour et nuit à être exhibée, pelotée. N'est-ce pas, Vera? C'est aussi ce que tu préfères, Franz, non?
C'est pour nous humilier que t'es rentré plus tôt.
Mais c'est incroyable. Au lieu de te réjouir de me revoir, tu fais crâler.
T'en fais pas, je m'habille et puis nous partons. Tu viens, là?
Oh non, j'ai encore envie de rester un peu. Je trouve la situation vachement excitante.
Et comme par hasard, Ludivine Sagnier, hein, qui est aussi dans 8 femmes, me semble-t-il, voilà. Hein, ça. Et ça a été trouvé, Manu.
Goutte d'eau sur pierre brûlante.
En même temps, si le mec s'appelle Franz aussi, enfin que c'est fait exprès pour que voilà, on sache plus.
C'est un peu compliqué. D'après une pièce de Fassbinder.
De Werner Fassbinder, effectivement, le réalisateur allemand que François Ozon admire. Alors, quatrième extrait de ce blind test.
Et toi, tu m'as trompé depuis qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu aimerais que je te réponde? Ben non, bien sûr.
Ah, c'est ça, c'est incroyable. Tu me demandes de comprendre tes infidélités alors que tu veux que je te sois fidèle.
Non, mais ça, c'est mon petit côté méditerranéen, macho, c'est pas...
Ben moi, j'ai trompé Marion qu'une fois. Une seule.
Tu crois que c'est le moment?
Ben je sais pas, on est tous là à se faire des confidences. Je me disais que je pouvais raconter ma petite histoire. Pourquoi il y aurait que les PD qui auraient le droit d'être infidèles? Je suis sûr que vous avez envie d'entendre une belle histoire d'adultère hétérosexuel, non?
Pourquoi pas si c'est drôle?
Drôle, je sais pas, mais intéressant, ouais. Ça te dérange peut-être, Marion?
Non, ça me dérange pas.
Bon, on va peut-être vous laisser?
Non, non, non. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va vous raconter.
Donc, c'était 5x2, Marine. Et tout 10. À fait. Donc, film avec 500 000 spectateurs. Je précise ça parce que c'est juste 3 millions de moins que 8 femmes. Voilà. Il y a eu des gros écarts quand même dans la filmographie de François Ozon. Cinquième extrait.
C'est une maison de famille?
On peut dire ça.
C'est-à-dire?
Elle appartient à un vieux mec avec qui je couchais quand j'avais 16 ans. Il se prend pour mon père.
Mmh. Je vois. Et il sait que t'es enceinte?
Non. Il se rend compte de rien, il est à moitié aveugle. Quoi? Tu me trouves grosse?
Non, c'est juste la manière de dire ça qui me fait marrer. Et il connaissait Louis?
Écoute, j'aime pas trop les interrogatoires, alors ok, je veux bien que tu dormes ici quelques jours, je suis une fille sympa, polie, mais s'il te plaît, tu me fous la paix, tu poses pas de questions, d'accord?
Excuse-moi, je voulais pas te...
Non, arrête de te... On est des adultes, ça va.
Eh ben bonjour l'ambiance. Alors Marine, c'était quoi?
C'était Le Refuge avec Isabelle Carré qui joue une junkie qui s'appelle Mousse et qui se retrouve à se taper le frère homosexuel de son ex qui est mort d'une overdose.
Bravo, bien résumé. Et tout ça, 116 000 spectateurs, donc encore moins que 8 femmes. Encore plus de 3 millions de moins. C'est ainsi que se termine.
Oh, c'était une victoire un peu éclatante quand même.
Blind test. Et ça se terminera pas sans la petite phrase de Godard qu'on va rappeler. Hein. Ozon n'est pas Ozou, Regarde la mer aurait dû s'appeler Regarde la merde.
This is Cinérama.
On referme les archives de l'émission pour retrouver l'actualité du cinéma et on va faire mentir le provoquant Godard. On débute logiquement avec Été 85 de François Ozon, un teen movie présent dans la sélection officielle du Festival de Cannes de cette année, une édition qui n'a pas eu lieu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Pour qu'on parle de ce que tu as fait, le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière. Et c'est à moi de donner mon avis.
Non. Ça ne vous regarde pas.
Il y a des livres que vous lisez qui vous bouleversent au point de les garder précieusement en tête. C'est le cas pour François Ozon avec La danse du coucou de l'écrivain anglais Aidan Chambers, un livre qu'il a lu à l'âge de 17 ans et qui devient 19 longs métrages plus loin, soit une belle carrière hein, quand même, une adaptation réussie. Il faut tout de même préciser que cette adaptation aurait dû être son premier long métrage, mais ce fut Regarde la mer, une histoire de plage également. Alors pour Regarde la mer, c'était l'île Dieu, avec Été 85, c'est la Normandie, dans la station balnéaire ouvrière du Tréport. Une ville qui ne jure pas trop par rapport à l'esthétique des années 80 que le réalisateur a voulu insuffler. Car Ozon aurait très bien pu adapter ce livre sorti en 85 à notre époque. Hein. Après tout, il raconte une histoire universelle, celle d'un amour d'été ou d'un amour tout court entre deux êtres. Alors il se trouve que ce sont deux garçons, mais ce n'est pas le sujet du film. À aucun moment, ce choix n'est mis en question par les personnages ni par la mise en scène. Cette histoire d'amour commence dans la détresse. Alexis, qui a 16 ans, sort en bateau et chavire. Mais heureusement, il croise sur sa route David, 18 ans, un garçon vif, flamboyant. L'un est fasciné par la mort, l'autre l'a connu quand son père est mort et bien 2 années auparavant. Entre ces deux-là va se tisser une relation éclatante mais aussi tragique. Et le film s'annonce ainsi. Car dès le début, le plus jeune des personnages nous dit bien que l'autre est mort et la promesse est faite qu'on saura pourquoi. Le long métrage n'est donc qu'un immense flashback, nous renvoyant à la relation entre ces deux êtres, le jeune agneau et le fauve, dirait Ozon, plage, fête foraine, boîte de nuit, virée virer en moto à toute allure. L'été est là, rythmé par le travail des deux garçons dans le magasin tenu par la mère de David, une Valeria Bruni Tedeschi, inquiète pour son fils, possessive mais rassurée qu'il se soit trouvé un ami sans faire tout un plat, que la relation soit homosexuelle, car on imagine qu'elle le devine. Alors il y a peu de personnages adultes dans Été 85 où tout est regardé du point de vue d'Alexis. Alors il y a sa mère, aimante, son père qui ne parvient pas à le comprendre, et puis un prof de français joué par Melville Poupeau. C'est lui qui est chargé par l'assistante sociale de pousser Alexis à raconter son histoire en l'écrivant, hein, pour que le juge comprenne comment David a pu mourir et puis pourquoi Alexis en vient à profaner sa tombe.
Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin.
Et pourquoi perdre du temps?
On est tous mortels.
À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus.
Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade.
Oh, j'adorerais.
Ce film, qui a tout l'air d'un teen movie, reprend de nombreux thèmes portés par Ozon dans sa filmographie, comme l'a pointé d'ailleurs le réalisateur lui-même. Il y a le travestissement, comme dans Une robe d'été ou Une nouvelle amie, la scène de morgue dans Sous le sable, la relation avec un professeur dans La maison, ou encore le cimetière dans France. Une grande partie du film nous emmène dans une relation sentimentale, caressée par la lumière de l'été, et puis bercée par les musiques très identifiables des années 80, et pour accompagner cette douce nostalgie, une image au format pellicule. Comme le film orchestre un suspense, l'autre partie du film est un espace où l'on est davantage en prise avec les personnages, leurs tourments, désirs et motivations. Alors même si Ozon n'est pas au zoo, hein, pour paraphraser Godard, hein, il n'empêche que ce réalisateur est doué pour, quels que soient les registres, raconter une histoire. Cela fait de lui un cinéaste précieux. Entre lumière, mystère, légèreté, gravité, Été 85 raconte les vacances d'un garçon et comment la rencontre d'un autre a changé sa vie. Le film porte une bande originale nous ramenant en un clin d'œil dans les années 80. En voici un condensé avec quasiment tous les morceaux qu'on entend.
Go on.
C'était un montage réalisé à partir des musiques présentes dans Été 85 dans les salles depuis le 14 juillet, un jour de sortie choisi également pour La Voix du Succès, un biopic qui mêle Grace Davis et son assistante, et c'est Marine qui nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Bonsoir New York, Chicago, bonsoir. Où on est?
À Détroit.
Je t'entends pas, Maggie.
À Détroit.
Je vous entends pas, Détroit.
Voici venu le temps des films de soul de girl power avant de découvrir le biopic sur Aretha Franklin. Voici La Voix du Succès, une fiction autour de la relation d'une star de la chanson et de son assistante. La première est Grace Davis, une diva qui voit la cinquantaine arriver comme sonnant le glas de sa carrière. La seconde est une jeune trentenaire payée pour obéir à ses moindres caprices mais qui rêve en réalité d'être productrice.
J'ai grandi dans la musique, c'est mon univers.
J'ai une dernière chanson pour vous ce soir.
Si tu m'avais dit quand j'étais gamine qu'un jour je bosserais pour Grace Davis, c'est une légende. Ça va?
J'ai pas l'air d'aller bien.
Si, vous êtes radieuse, resplendissante. Je sais que t'es convaincue qu'elle va t'offrir la chance de tes rêves, qu'elle va changer ta vie et faire de toi sa productrice.
Oui.
Elle doit même pas se souvenir de ton nom de
si,
famille.
Si, elle s'en souvient, enfin parfois.
Je suis là.
Je veux faire du tri dans mes affaires et donner les choses qui n'ont pas l'étincelle de joie.
Alors il faut préciser que la productrice ou le producteur d'un album de musique, aussi appelé réalisateur artistique, est la personne qui se charge de lui trouver sa sonorité, de superviser les sessions d'enregistrement en décidant des arrangements sonores et des musiciens qui donneront au morceau leur singularité. Et le film montre assez bien les différents aspects de ce métier de l'ombre. La diva, interprétée par Tracy Ellie Ross, fille de Diana Ross, est donc particulièrement sensibilisée, on l'imagine, aux affres de la célébrité, campe avec charisme, une chanteuse au talent certain qui évolue dans un monde plein d'hommes convaincus de son incapacité à ressusciter sa carrière. Tandis que son assistante, que joue Dakota Johnson, aimerait la pousser à sortir un nouveau disque et tant qu'à faire, le produire elle-même. Or, dans l'industrie musicale, l'âge est une barrière cruelle car, comme Grace Davis le rappelle, dans toute l'histoire de la musique, seules 5 artistes féminines ont réussi à avoir un titre numéro 1 des charts après 40 ans et seulement 1 sur 5 était noire.
Laisse-moi faire mon travail et fais le tien, qui consiste à lui apporter son café, ses tampons, ses mouchoirs et toutes les conneries pour lesquelles t'es payée depuis ces 6 derniers mois.
T'es payée? Je croyais que t'étais stagiaire.
Ma vie est pourrie!
Je voulais pas vous en parler ni à Jack ni à vous. J'ai fait une maquette de l'album.
Hé, hey, je vous entends. Vous savez bien qu'il y a un micro là-dedans, non?
J'avais envie de tenter ma chance.
Mais enfin, pour qui tu te prends? Missy Elliott?
C'est une question de confiance et de dévouement. Dans l'histoire de la musique, seulement 5 femmes de plus de 40 ans ont une chanson classée numéro 1. Et une seule de ces femmes était noire.
C'est loin d'être fini pour vous.
Je sais que tout le monde serait ravi de me voir donner le même concert tous les soirs. Mais si je pouvais aspirer à mieux.
Je veux faire partie de l'aventure.
La structure rappelle la comédie romantique, mais La Voix du Succès n'en est pas une. Bien qu'il s'agisse d'un vrai feel-good movie, ici, ce qui est au cœur de l'intrigue, eh bien, ce n'est pas les relations amoureuses des héroïnes, mais bien leur épanouissement personnel, directement lié à leur passion pour la musique. Cette vision très féministe, qui fait plaisir à voir dans un film américain en 2020, n'empêche pas le film d'être divertissant, léger, parfait pour l'été en somme. L'humour y est facile à digérer et repose essentiellement sur le name-dropping. On aime la vision acide que propose cette comédie d'une industrie musicale mercantile, symbolisée ici par le rappeur Ice Cube, qui interprète un producteur obnubilé par l'argent, bien plus que par la dimension artistique de son travail. Dakota Johnson interprète sans trop d'efforts, quant à elle, un personnage de jeune femme timide et ambitieuse qui porte à merveille les fossettes et la frange. Elle a heureusement suffisamment de charme pour rendre le film attrayant et on ne peut que saluer les choix de carrière de celle qui fit ses débuts dans 50 nuances de gris pour ensuite jouer dans Suspiria, A Bigger Splash ou encore Saltan à l'hôtel El Royal. Autour de cette distribution, une équipe de femmes, la cinéaste Nisha Ganatra, à qui l'on devait jusqu'ici surtout quelques séries, telles que Transparente, réalise donc La Voix du Succès. Le scénario est signé Flora Grissom et la bande originale est signée Amy Doherty.
Attends, c'est ta voiture?
Ouais.
Faut que tu demandes à ta boss de t'augmenter.
Ça arrive, monsieur.
Je vous l'ai déjà dit, on ne fait pas de service à bord des véhicules.
Eh ben, vous devriez, ce serait une bonne idée.
Oh, wow, vous êtes Grace Davis,
ça.
Non.
La Voix du succès est en salle depuis le 14 juillet. On reste avec Marine, qui a vu La Nuit venue, premier film de Frédéric Farrucci, avec Camilla Jordana.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique ? T'as pourtant pas l'air d'un clubbeur.
Je t'ai dit, Jane.
Payé et tout ? Maintenant, chauffeur.
Nous sommes à Paris, la nuit de nos jours, dans le VTC de Jin. Jin est un jeune chinois venu sans papier en France en espérant un futur meilleur. Mais cet ancien DJ conduit en réalité toutes les nuits un Uber pour le compte de la mafia locale, sillonnant Paris pour éponger une dette qui semble sans fin. Un soir, une jeune stripteaseuse, Naomi, monte à bord de sa berline et leur vie bascule.
Je te dégoûte.
Oui. J'aurais pas dû dire ça.
Si c'est ce que tu penses.
Je pense que tous les hommes pensent ça, non ?
Ça veut dire quoi, d'écouter ?
Ça vient de coûter. Avoir du coup, comme plaire, non ? Quoi ?
Rien.
Il y a du Audiard dans le premier long métrage de Frédéric Farrucci, dans cette façon de mêler réalité sociale, film noir et peinture des milieux interlopes de la capitale. Ici, c'est autant de l'ubérisation de la société que de l'immigration clandestine qu'il est question, car tout se déroule du point de vue du jeune conducteur. On regrette simplement que le personnage de Camilla Jordana, qui interprète Naomi, soit si mystérieux, si fatal, si archétypal finalement, et qu'on ne sache pas grand-chose de son parcours. N'en déplaise à ceux qui voudraient la cantonner à son passage dans l'émission La Nouvelle Star, Camilla Jordana poursuit sa carrière atypique, côté musique en multipliant les collaborations audacieuses, et côté cinéma, en laissant désormais de côté les comédies sociales dans lesquelles elle excellait pourtant, hein, qui lui ont valu notamment un César pour le Brio, pour s'impliquer dans des films qui représentent des paris artistiques plus risqués, comme le récent film de guerre Sœur d'Armes. La Nuit venue lui permet d'explorer un nouveau registre avec talent, elle y est très convaincante et furieusement belle. Alors bien sûr, il est aisé hein, pour un film d'avoir du style. Lorsque la moitié des plans se passe la nuit dans un Paris éclairé à la lumière des phares, encore plus lorsqu'il est accompagné de la musique planante du français Rhône, mais il y a décidément dans La Nuit venue quelque chose d'assez irrésistible qui réussit à ne jamais devenir poseur. Là où le film trouve son rythme, ce ton qui fait la différence, c'est dans sa gestion des silences. La caméra ne coupe jamais là où on l'attend, laissant l'action en suspens quelques secondes. Au-delà des références et des influences que l'on ressent, il y a une vraie identité dans ce premier film de Frédéric Farrucci, quelque chose qui nous accroche et qui nous reste longtemps en mémoire.
On termine cette émission estivale avec Les Parfums, ou le plaisir de retrouver Emmanuel Devos dans une comédie bucolique qu'a pu voir Guillaume.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Oui ?
Oui, bonjour Madame Valberg.
Mademoiselle.
Ah, excusez-moi. Vous voulez que je... Très bien.
Au moment où l'on peut à nouveau mettre son nez dehors, et pour bien évidemment le coller dans une salle obscure, Les Parfums de Grégory Magne débarquent à point nommé pour tenter de nous proposer un bol d'air frais. L'histoire, vous la connaissez en fait déjà. Un buddy movie qui rassemble deux représentants des classes sociales que tout oppose habituellement, Les Parfums va bien évidemment faire fi des barrières de la vie pour les embaumer de bonheur, et nous par la même occasion. Les Parfums racontent la rencontre entre Guillaume, chauffeur loser qui tente d'obtenir la garde de sa fille, et Anne, une femme au nez d'exception qui a jadis travaillé pour les plus grands parfumeurs. Au moment où commence le film, son heure de gloire est passée et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, vive autant de contrat en contrat pour les petites compagnies et enchaîne des missions indignes de son appendice. L'un est nature et gaffeur, l'autre est une peste et déteste les gens. Leur rencontre lors d'une banale mission pour Guillaume va créer des étincelles et au fur et à mesure qu'ils vont se côtoyer, leur relation va s'étoffer. D'inconnus qui se jugent l'un l'autre, ils vont apprendre à se sentir, s'apprivoiser, mettre du baume sur leurs plaies respectives et vont finir par accorder leur violon pour combattre leur plus grande crainte, c'est-à-dire eux-mêmes. La tâche n'est pourtant pas simple pour Guillaume. Anne a déjà épuisé trois chauffeurs dans la compagnie qu'il emploie et les femmes difficiles, c'est bien son problème du moment. Il doit contenter une juge tenace, mener à bien son divorce et essayer de gagner son droit à garder sa fille de 10 ans de manière équitable sous son toit, toit qui n'est pas réglementaire pour la garde demandée. Alors qu'il cherche de quoi stabiliser le peu qui lui reste d'intact dans sa vie, l'arrivée de l'ouragan de froideur et de dépression qu'est Anne s'annonce comme un ultime coup de couteau dans le dos. Mais coup de théâtre, alors qu'il craque devant cette cliente odieuse et qu'il n'hésite pas à envoyer paître, celle-ci va demander expressément à son patron de lui donner ses missions suivantes. Guillaume, qui a donc réussi à lui plaire, va découvrir bon gré mal gré que derrière le masque de la diva glacée se cache une âme en peine qui n'est pas si éloignée de lui. D'un côté, nous avons une femme de goût mais qui manque de nez en relations humaines, et de l'autre, nous avons un homme sans saveur mais qui est confondant de naturel. Le mélange des arômes peut commencer.
Je suis née, vous savez ce que c'est ? Née ?
Oui, je sais ce que c'est, oui.
M'aidez pas à monter mes valises ?
Fumez pas, portez mes affaires. Non mais juste dire merci et bonne soirée.
Anne, c'est Emmanuel DeVos qui ne fait pas la différence entre bien et mal parler aux gens. Guillaume, c'est Grégory Montel que le réalisateur avait révélé au grand public en 2012 dans son premier film « L'air de rien ». Il va apprendre à Anne à devenir plus subtile, à l'image de ses capacités olfactives. Et vu qu'elle a du mal à s'exprimer, il va devenir progressivement une sorte d'associé qui va prendre des initiatives pour elle. Dans cette volonté de tracer un chemin à ces deux personnages qui faisaient jusqu'ici du hors-piste, il n'est pas étonnant de voir que la première mission d'Anne en compagnie de Guillaume se passe dans une grotte. Devant recréer l'odeur de ce lieu pour sa reproduction à venir qui est, elle, destinée au grand public, cette plongée dans un lieu primitif montre à quel point les deux individus sont sauvages. La civilisation progressive d'Anne au contact de Guillaume va lui permettre de remettre les pieds dans des lieux publics comme les bars, les restaurants et même des fêtes. Le chauffeur, quant à lui, va prendre conscience qu'il se résume qu'à sa fonction de base, c'est-à-dire amener des gens où ils veulent aller, et va comprendre grâce à sa cliente qu'il est plus important d'amener les gens là où il aimerait, lui, les amener. C'est en faisant découvrir quelque chose qui tient vraiment à cœur que le destinataire se rappellera véritablement de l'être qui lui a permis ce voyage.
Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise ?
Et vous, pourquoi vous êtes revenu ?
Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans, et que si je veux la garde partagée, bah, j'ai besoin de travail.
Ça sent quoi ?
Ah ben ça pue, la colle à papier peint, vous savez.
Benzaldéhyde.
Benzaldéhyde.
Elle porte, j'adore.
Mais vous connaissez la recette de tous les parfums comme ça ?
C'est moi qui l'ai créée. C'était sa période de gloire. À l'époque, on lui déroulait des ponts d'or pour qu'elle signe un parfum. Ça vous fait penser à quoi, ça ?
Je sais pas.
Faites-vous confiance un peu. Je vais refaire du parfum. Vous m'aideriez ?
Mais pourquoi vous ne demandez pas quelqu'un dans ses métiers ?
Parce que vous êtes doué, Guillaume.
Au-delà de ça, elle va lui apprendre à faire le blanc, c'est-à-dire nettoyer son nez en respirant sa propre odeur. À sa manière, elle va lui apprendre à s'accepter tel qu'il est et comment tirer des forces de sa propre essence naturelle. Guillaume est un loser uniquement parce qu'il n'est pas à sa place et parce qu'il n'a pas su encore la trouver. Anne est une sauvage car elle a perdu sa confiance en elle en ratant une grosse opportunité quelques années plus tôt et doit prendre sa revanche pour atteindre la place qu'elle mérite. Alors oui, les parfums, c'est un peu Miss Daisy, son chauffeur en version française et socialiste, sauf qu'ici, il y a deux paumés dans l'habitacle. Le film a la qualité de savoir qu'il n'est pas original et ne cherche d'ailleurs pas à surprendre. Il n'y a jamais vraiment d'étincelle particulière qui va changer l'itinéraire fixé dès le départ, et ce jusque dans sa mise en scène. Il va par contre gagner des points avec le portrait de ses personnages et les petites subtilités qu'il donne au quotidien d'Anne et Guillaume. Grégory Magne mise tout sur ses comédiens vedettes et l'évolution de leur caractère, tout comme celui des personnages secondaires. On note la fraîcheur de la jeune Zélie Rickson que l'on avait découverte dans l'étonnant et plus sombre « Tous les dieux du ciel » de Quarks, et le décalé Gustave Kervern dans le rôle du patron de Guillaume, qui joue toutes ses scènes dans un restaurant asiatique qu'on dirait étrangement sorti d'un polar de Jonito. Donc, ne fermez pas les yeux car vous êtes toujours au cinéma, mais emplissez vos poumons des parfums du titre. Ce sont ceux de l'instinct qui vous montrera la juste voie à suivre pour mieux vivre dans votre peau.
La serveuse, pas un seul instant vous avez levé la tête pour la regarder. Les gens n'ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous êtes même pas capable de dire deux mots, juste deux mots.
Merci.
Je vous en prie.
Deux mots.
Les parfums est dans les salles depuis le 8 juillet.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec cette même formule. Des blind tests pour s'amuser et de l'actu cinéma pour s'informer et renouer avec les salles de cinéma.
This is Cinerama.